J'aimerais aujourd'hui aborder un sujet très sérieux. Chaque sabbat, bien sûr, nous parlons de choses sérieuses, mais le sujet d'aujourd'hui doit particulièrement être pris au sérieux. Parce que c'est quelque chose qui va nous affecter, et ça nous affecte déjà, tous et à chaque instant. Comprenons-nous ce qui se passe autour de nous? Nous savons, bien sûr, que le monde change. Il change rapidement et de façon très spectaculaire. Malheureusement, les plus jeunes d'entre nous, ce n'est pas leur faute, n'ont pas vécu assez longtemps pour se rendre compte à quel point le monde a changé. En y réfléchissant, j'ai dû ajuster mes notes même. Je pensais d'abord que ces changements avaient commencé il y a 20 ans, mais c'était plutôt il y a 30 ans. 30 ans, c'est très long. À moins d'avoir 45 ou 50 ans, on ne peut pas vraiment réaliser l'ampleur du changement qui a eu lieu et qui continue de se produire. Tant de choses surviennent dans le monde. Comprenons-nous ce qui se passe autour de nous présentement? Veillons-nous sur nos pensées et nos émotions? En d'autres mots, surveillons-nous les effets que ces changements ont sur nous, personnellement. Comment affecte-t-il notre façon de penser ou de réagir? Comment affecte-t-il nos émotions? Ressentons-nous de la colère ou de l'hostilité? Ou sommes-nous tout simplement fébriles, alors que nous ne devrions pas l'être autant? Comprenez-vous comment le prince de la puissance de l'air agit sur notre monde? À vrai dire, frères et sœurs, plusieurs ne le comprennent pas. Je crois que plusieurs ne comprennent vraiment pas de quelle manière le prince de la puissance de l'air travaille pour détruire ce monde et, si possible, nous détruire. M. Herbert Armstrong avait l'habitude de dire qu'il pensait que 50% d'entre nous ne comprenait pas vraiment. Parfois, il disait même qu'à peine 10% comprenaient réellement. Il avait raison, n'est-ce pas? Oui. Il avait beau répéter le même message, semaine après semaine, ou des messages très similaires, les gens ne comprenaient tout simplement pas. J'ai eu du mal à trouver un titre pour mon sermon aujourd'hui. D'habitude, je trouve assez rapidement. Normalement, c'est l'objectif poursuivi qui me sert de base pour définir le sujet de mon sermon et trouver le titre. Parfois, je pense avoir trouvé un titre qui frappe, mais il ne décrit pas vraiment le sujet traité. Il ne fait qu'attirer l'attention sur le sermon, sur un article ou autre chose. Ce que nous verrons aujourd'hui s'apparente à un article écrit par M. Meredith, et aux propos qu'il tenait vers la fin de sa vie, quand il parlait de quelque chose de spécial, quand il parlait de l'univers alternatif de Satan. Je ne voulais pas prendre cette expression comme titre, parce que c'était la sienne. C'était sa façon de décrire la situation spéciale qui caractérise notre monde. Alors, j'ai pensé à d'autres titres, l'infopublicité du diable ou l'infopublicité de Satan. Sauf que les noms « diable » et « Satan » ont été banalisés par le personnage même qu'ils décrivent. « C'est le diable qui m'a fait agir ainsi », disent souvent les gens. On banalise Satan comme s'il n'était pas réel, comme s'il n'était que le fruit de notre imagination, quelque chose ou quelqu'un sur qui rejeter le blâme. De toute évidence, il est vraiment passé maître dans l'art de tromper, car c'est lui qui a imaginé tout cela. J'ai finalement choisi un titre pour ce sermon. À défaut de mieux, je l'ai appelé « L'infopublicité du serpent ». L'infopublicité du serpent. Ce sera le sujet du sermon d'aujourd'hui. Mon intention est de vous faire réfléchir à la manière dont s'y prend le prince de la puissance de l'air pour agir, non seulement dans le monde, mais aussi dans notre vie, à vous et à moi, comment il essaie de nous influencer. J'espère que ce sermon vous aidera à identifier, à partir de toutes ces choses qui nous entourent, ce que vous laissez entrer dans votre esprit, par vos yeux et par vos oreilles. Les anciens parmi nous sont familiers avec la doctrine de l'esprit dans l'homme. D'après ce que j'en sais, ce n'est pas une doctrine majeure dans les églises du monde en général. Pour la plupart d'entre elles, ce n'est même pas une doctrine. Si vous allez sur Internet, vous pourrez constater que très peu de gens parlent de l'esprit dans l'homme. En dehors de l'Église de Dieu, je pense qu'aucune Église n'y accorde de l'importance. D'ailleurs, plusieurs nouveaux parmi nous ignorent tout de cette doctrine. Ils en ont peut-être entendu parler, mais ils n'en connaissent pas le contexte. Cela n'a pas toujours été une doctrine dans l'Église de Dieu. Moi, j'en ai entendu parler pour la première fois au Collège Ambassadeur en 1965 et tout le temps que j'ai passé sur place jusqu'en 1969. M. Armstrong commençait alors à comprendre quelque chose qu'il n'avait pas compris auparavant. Et, selon sa façon de faire les choses, il était porté à en parler encore. Presque chacun de ses sermons portait sur ce concept de l'esprit dans l'homme à ce moment-là. Plus le temps passait, plus il comprenait ce que les Écritures révèlent à ce sujet, et, d'une fois à l'autre, mieux il formulait sa compréhension. Ce n'est pas que la doctrine n'avait pas toujours été là, elle avait toujours été dans la Bible, mais cette vérité n'avait pas encore été saisie correctement. Encore une fois, ce n'est pas quelque chose que vous trouverez dans la plupart des églises du monde. Dans Job, le chapitre 32, au verset 8, l'auteur nous parle de l'esprit dans l'homme, justement. C'est l'un des passages les plus importants, et il en parle très directement. Il dit, « Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Il y a donc un esprit dans l'homme, et ce souffle du Tout-Puissant lui donne la capacité de comprendre. Cet esprit qui est placé dans l'homme lui permet de penser, de raisonner, et d'en venir à comprendre les choses. Le livre d'Ecclésiaste contient un verset qui, à mon avis, a intrigué plusieurs d'entre nous. Il m'a personnellement longtemps intrigué. J'aimerais pouvoir revenir en arrière et demander personnellement à M. Armstrong ce qu'il pensait de ce passage particulier. Il se trouve dans Ecclésiaste, chapitre 3, verset 21. Nous avons tous des questions qu'on aimerait poser à quelqu'un, n'est-ce pas? En ce qui me concerne, si je ne prends pas la précaution de noter soigneusement les questions que j'aimerais poser, j'ai un blanc de mémoire parce que je me trouve finalement en présence de cette personne. J'oublie. Il y a des questions que j'aurais, dans ce sens-là, aimé poser à M. Armstrong. Mais chaque fois que j'ai eu l'occasion de le rencontrer chez lui, lorsqu'il invitait à dîner des finissants ou à d'autres occasions, chaque fois, j'oubliais mes questions. J'aimerais bien savoir ce qu'il en pensait. Il est dit dans Ecclésiaste 3, verset 21, « Qui sait si le souffle, esprit dans certaines versions, des fils de l'homme monte, et si le souffle de la bête descend dans la terre? » Il me semble que la plupart de ceux qui se disent chrétiens considèrent que l'esprit de l'homme est son âme, et c'est là une partie du problème. C'est un concept erroné. Le concept erroné de l'immortalité de l'âme, ça embrouille toute la question. C'est pourquoi M. Armstrong a passé beaucoup de temps, tout comme l'Église d'ailleurs, à expliquer les Écritures à ce sujet. La vraie signification des Écritures a été déformée et tordue par ceux qui croyaient à cette fausse doctrine païenne de l'immortalité de l'âme. Mais ici, au verset 21, on pose une question à laquelle on ne répond pas vraiment. Est-ce que le souffle des fils de l'homme monte et que le souffle des bêtes descend dans la terre? Faudrait-il se demander si les animaux ont un esprit animal? Eh bien, nous savons que les chiens ont un certain comportement et que les chats ont une personnalité très différente de celle des chiens. Il y a aussi tous les autres animaux que Dieu a créés. C'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse. Je pourrais faire des spéculations et vous pourriez le faire aussi, Mais comme je le dis souvent, vos suppositions risquent d'être tout aussi mauvaises que les miennes, ou vice-versa. Nous ne le savons pas. Chose certaine, il est ici question de l'esprit des fils de l'homme. La notion d'un esprit dans l'homme se trouve bien dans les Écritures. Mais il ne s'agit pas d'une âme immortelle. Cette fausse doctrine a franchement empêché les gens de comprendre ce qu'il en est vraiment. Les humains n'ont pas en eux une telle entité spirituelle immortelle dans le sens où elle constituerait leur véritable identité et qu'après leur mort, elle irait au ciel ou en enfer. Cela dit, si vous avez des questions à ce sujet, comme je ne peux pas y consacrer plus de temps dans ce sermon, sachez que jeudi prochain, le jour de l'Action de grâce, nous diffuserons l'émission « Avez-vous une âme immortelle ?» qui expliquera cela plus en détail. En fait, cette émission passera en ondes du jeudi au mercredi suivant. Vous pourrez donc regarder dimanche prochain. Le bulletin indique d'autres stations où vous pourrez voir cette émission aussi. Ici à Charlotte, nous sommes privilégiés car nous pouvons la voir 5 ou 6 fois par semaine, sans compter qu'elle est aussi disponible sur Roku et sur Internet. Vous pouvez ainsi regarder l'émission à tout moment de votre choix, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Quant à ceux qui sont curieux et qui veulent remonter quelques années en arrière, vous pourrez voir à quoi ressemblait M. Richard Ames en 2004. Il avait alors préparé une émission télévisée intitulée « La vérité sur l'âme immortelle ». Si vous préférez lire une publication ou si vous n'avez pas accès à Internet ou à la télévision, vous pouvez toujours consulter la brochure que j'ai écrite et qui s'intitule « Jean 3, 16, les vérités cachées du verset d'or ». Le chapitre 7 de cette brochure comporte une section qui traite de l'immortalité de l'âme. Pourquoi c'est une doctrine païenne et pourquoi elle ne se trouve absolument pas dans la Bible? Que dit la Bible à propos de cet esprit qui est dans l'homme, ou de l'esprit de l'homme? Que nous enseigne-t-elle à ce sujet? Allons à Zacharie 12, verset 1. Il est dit ceci. Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel, qui a étendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. C'est ici le troisième passage que nous venons de lire à ce sujet. Il y a un esprit dans l'homme. Allons à Proverbes, chapitre 20, s'il vous plaît. Encore une fois, il ne s'agit pas du tout de l'âme dont parle le christianisme traditionnel. C'est quelque chose de tout à fait différent. C'était difficile pour M. Armstrong d'arriver à le comprendre, mais à mesure qu'il nous l'expliquait, les choses devenaient plus claires pour lui. Au moins, nous en comprenons maintenant le sens général. Il ne s'agit pas de quelque chose qui rendrait les gens conscients de leur propre existence, mais il s'agit plutôt d'un élément immatériel qui rend le cerveau fonctionnel. Ce n'est pas quelque chose de matériel, c'est une essence spirituelle. M. Armstrong avait l'habitude de comparer l'esprit à une petite cassette, une bande magnétique enregistrée dont le contenu reste inaccessible à moins d'être replacé dans un magnétophone. Un meilleur exemple serait sans doute celui plus moderne d'un ordinateur, un outil qui peut contenir un traitement de texte, par exemple. S'il est assez puissant, on peut y ajouter d'autres logiciels qui accompliront des tâches encore plus compliquées. L'analogie est imparfaite, bien sûr. On a parfois du mal à expliquer et à décrire certaines de ces choses. J'en ai déjà parlé, mais ça nous donne une petite idée de ce que ça peut être. Allons à Proverbes, le chapitre 20, s'il vous plaît. Proverbes, chapitre 20, et nous allons lire le verset 27. Donc, Proverbes 20, verset 27. Il est dit ici, « Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Ainsi, c'est par l'esprit de l'homme que Dieu peut connaître et explorer le fort intérieur de l'être humain, sa pensée intérieure, les profondeurs de sa pensée, de ses émotions, et ainsi de suite. Voyons maintenant Ésaïe 55, qui parle d'un sujet que j'ai déjà abordé dans le passé et qui fait partie du tableau d'ensemble de ce que je vous explique aujourd'hui. Ésaïe, chapitre 55, nous allons lire le verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Si nous devions en rester là, nous dirions simplement, la pensée de Dieu se situe à un certain niveau tellement élevé, et nous sommes désespérément perdus, car nous ne pouvons pas penser comme lui, absolument pas. Mais en regardant le contexte de ce passage particulier, nous voyons que Dieu s'adresse à des gens qui ne sont pas convertis. Regardez, il commence par leur dire au verset 1, « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez et mangez, venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. » Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle. Puis au verset 6, il ajoute, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Alors, il invite les gens à venir à lui, à cesser de courir après des choses qui ne peuvent jamais satisfaire vraiment. Il ajoute que ce qu'il nous offre est gratuit. Nous n'avons pas besoin de payer, car cela n'a pas de prix. Quand il dit « Mes pensées ne sont pas vos pensées, ni vos voix mes voix », nous pourrions nous arrêter là et dire « Il m'est donc impossible de penser comme Dieu ». Mais ce n'est pas le cas, vous allez voir. Allons dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 9. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 9. C'est un passage que nous avons cité à maintes reprises. Paul fait une déclaration semblable dans le sens de ce que nous étudions. Il dit ceci, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Voyez-vous, il y a donc des choses incompréhensibles pour les êtres humains, sans l'aide de Dieu, mais avec l'aide de Dieu, on peut les comprendre. C'est pourquoi il poursuit au verset 10 en disant, Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit, le Saint-Esprit de Dieu, sonde tout, même les profondeurs de Dieu. L'apôtre Paul parle de l'esprit dans l'homme ensuite. C'est intéressant parce que je consultais ce matin un commentaire biblique qui est habituellement juste sur certains points. J'étais curieux de voir ce qu'il mentionne au sujet de ce verset. Il rapporte seulement que Paul utilise ici une analogie et il change de sujet tout de suite en parlant du Saint-Esprit, qui est bien sûr le sujet traité par Paul. Nous ne devrions pas prendre à la légère ce que rapporte le verset 11. C'est très clair et c'est important. Qui donc, parmi les hommes, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Voilà ce que Paul souligne et qui est important. Il y a un esprit dans l'homme. Monsieur Armstrong avait bien compris que le cerveau humain a quelque chose de plus que sa simple dimension physique. Il y a des créatures dont le cerveau est plus gros que celui de l'homme. À vrai dire, ce n'est pas seulement la taille du cerveau qui importe, mais aussi sa complexité, la quantité de liens qu'il peut faire et toutes sortes d'autres choses. C'est un sujet très complexe. M. Armstrong reconnaissait qu'en comparaison, le cerveau d'un homme est généralement plus gros que celui d'autres créatures, mais la capacité de compréhension de l'homme est tellement supérieure à celle des animaux. Tellement supérieure à celle des animaux. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? C'est une déclaration très forte quand on y pense. L'Esprit qui est dans l'homme nous permet de comprendre. Il nous donne des capacités intellectuelles que les animaux n'ont tout simplement pas. Avec son esprit, l'homme peut comprendre le calcul différentiel et intégral. Du moins, certains le peuvent. La trigonométrie. Les humains peuvent construire des hôpitaux. Nous pouvons voyager dans l'espace. Nous avons conçu des ordinateurs qui utilisent l'intelligence artificielle pour accomplir des choses étonnantes. Nous savons construire des robots capables de courir comme un être humain ou encore comme un chien. Il y a des robots à quatre pattes et d'autres qui en ont seulement deux. Ces accomplissements sont des exploits. Nous construisons des hôpitaux, nous développons des médicaments et nous soignons les animaux. Mais jamais les animaux ne nous soignent. Certains ont même tendance à vouloir nous dévorer plutôt qu'à nous venir en aide. Quand nous considérons les capacités de l'homme, elles sont de loin supérieures à celles des animaux, tellement. C'en est ridicule de voir comment les évolutionnistes cherchent à montrer une progression quelconque. Par exemple, ils disent « Voici un singe qui prend un bâton, le plante dans une fourmilière, puis le retire, le lèche et mange les fourmis qu'il y a dessus. » Et ils disent « Le bâton lui sert d'outil. » Vous savez, l'homme peut fabriquer des outils qui fabrique des outils. Il existe des imprimantes 3D qui fabriquent des outils qui fonctionnent vraiment. Ils ne durent peut-être pas très longtemps, mais ils fonctionnent bien. Nous pouvons faire toutes sortes de choses que les animaux ne peuvent pas faire. Bien sûr, les animaux peuvent faire des choses merveilleuses. Observez un nid d'oiseau, par exemple. C'est assez remarquable, assez étonnant. Mais un oiseau fait toujours le même genre de nid. Chez les tisserins, par exemple, après que le mâle a fait un nid, la femelle l'examine et donne ou non son approbation. Il peut y avoir des différences, mais à nos yeux, elles sont probablement peu ou pas perceptibles. Au sujet de l'esprit des animaux, vous demandez-vous ce que c'est? Qu'est-ce qui fait qu'un animal est comme il est? Je n'ai pas de réponse à cette question. Mais ça m'émerveille. C'est une question que j'aimerais demander après la résurrection pour trouver la réponse. Grâce à son esprit, l'être humain peut comprendre des choses que les animaux ne peuvent pas comprendre. Et quand l'esprit de Dieu est ajouté à cet esprit dans l'homme, un homme nouveau est engendré. Une nouvelle créature est conçue. Notez ce qui est écrit dans Romains chapitre 8 et le verset 14. Romains 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. L'Esprit de Dieu est différent de l'Esprit qui est dans l'homme. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Laissez-moi retourner à 1 Corinthiens chapitre 2. Je pense que je n'ai pas fini d'expliquer ce verset. 1 Corinthiens 2 et le verset 11. Qui donc, parmi les hommes, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Alors, on compare ici l'esprit de Dieu et l'esprit dans l'homme. Nous ne pouvons pas connaître les choses de Dieu sans avoir l'esprit de Dieu. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Mais avec l'esprit de Dieu, nous pouvons commencer à comprendre les choses de Dieu. Peut-être comme à travers une vitre teintée, bien sûr, mais nous pouvons au moins commencer à comprendre ces choses d'un autre niveau. Romains 8, verset 14, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Verset 16, « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit humain, que nous sommes enfants de Dieu ». C'est une déclaration vraiment étonnante. L'Esprit de Dieu, en rendant témoignage à notre esprit, fait de nous les enfants de Dieu. Il y a donc rencontre entre deux esprits différents. Allez à 1 Jean, le chapitre 3, s'il vous plaît. 1 Jean, chapitre 3, vous allez voir, ça complète le tableau dont je vous parle, 1 Jean chapitre 3 et le verset 9. Quiconque est né, ou plutôt engendré de Dieu, ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher, parce qu'il est né, engendré de Dieu. Comme nous l'avons expliqué ici, c'est le mot semence, du terme sperma, qui signifie sperme, le sperme de Dieu, autrement dit, l'ADN de Dieu nous a été transmise. Ainsi, nous avons reçu le sperme de Dieu, sa semence, en nous donnant le Saint-Esprit, et nous a transmis son ADN, comme c'est écrit dans Romains 8, verset 16. Cela fait de nous une nouvelle créature. Nous sommes les enfants de Dieu. Dieu se sert de la reproduction humaine et animale pour nous enseigner quelque chose. Le processus d'engendrement par l'Esprit de Dieu est certainement différent, mais il s'agit quand même de deux esprits qui sont réunis, qui s'unissent. L'esprit dans l'homme peut ainsi recevoir les influences spirituelles de Dieu. Mais il y a un problème qui se pose. Il peut aussi, cet esprit dans l'homme, recevoir des influences spirituelles en provenance d'une autre source. Cela ouvre la porte à des difficultés. Selon Éphésiens 2, il est très clair qu'il existe un autre être spirituel, un esprit, que j'appelle aujourd'hui dans le sermon le serpent, en me référant bien sûr à l'expression du Jardin d'Éden. Allez dans Éphésiens chapitre 2 et nous allons voir le verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. Il dit que nous avons tous autrefois marché selon les façons de ce monde, franchement. Quand vous lisez le contexte dans son ensemble, il parle non seulement des gentils, mais de nous tous. Au verset 3, il dit que nous sommes tous comportés de la même façon. Nous avons tous marché selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, celui qui dirige le cours de ce monde, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Cet esprit est capable d'inciter les êtres humains à la désobéissance. Ainsi, l'Esprit de Dieu en nous fait de nous une nouvelle créature, mais il n'enlève pas à Satan la capacité de nous transmettre aussi des pensées et des émotions, en tentant d'influencer l'esprit de l'homme qui est en nous. Cet esprit dans l'homme reçoit donc les influences spirituelles du prince de la puissance de l'air, qui, par son esprit, dirige le cours de ce monde. En ce moment même, dans cette pièce, il y a des voix, des mots et des images tout autour de nous. Nous ne pouvons pas les percevoir, à moins d'avoir un récepteur approprié. Si vous êtes muni, par exemple, d'une radio, ou mieux encore, d'un téléphone intelligent, vous pouvez, en l'ouvrant, accéder à toutes sortes d'images, de mots, de voix, de sons, de musique. Tout est là. Tout est autour de nous. Mais, pour y avoir accès, il nous faut un récepteur approprié. L'esprit dans l'homme lui donne une compréhension bien supérieure à celle des animaux. Toutefois, Satan, par son esprit, est capable de diffuser ses messages aux êtres humains et d'agir dans les fils de la rébellion. Malheureusement, il peut même agir aussi sur nous, le peuple de Dieu, en diffusant son infopublicité. Le message qu'il désire transmettre à tous et à chacun des êtres humains. Le récepteur dont je vous parle, c'est l'esprit dans l'homme, et il nous rend capable de recevoir l'esprit de Dieu pour comprendre les choses spirituelles et naître un jour dans la famille divine. Dieu accomplit en nous quelque chose de formidable, de merveilleux. Mais nous devons apprendre à discerner entre deux esprits. 1 Jean chapitre 4, verset 1, rapporte ceci. 1 Jean chapitre 4, verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Il se passe bien des choses autour de nous. Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. En ce qui concerne la Bible et la religion en général, nous devons tester, éprouver les esprits, et aussi vérifier si le cours de ce monde suit la voie de Dieu, ou plutôt celle du serpent dont je vous parle. Comment le serpent opère-t-il sa magie? L'infopublicité qu'il diffuse entre en nous par nos cinq sens afin de manipuler nos pensées et nos émotions en utilisant la musique, les images, le contenu des réseaux sociaux, tout ce qui peut être capté par nos yeux et nos oreilles, tout ce qui peut influencer nos pensées afin de nous imposer son agenda et son but. Pensez-y. Même les animaux ont des émotions. Peuvent-ils pour autant comprendre la tristesse ou la joie qui se dégage d'un film, par exemple? Je sais qu'ils peuvent être tristes. Quand un animal avec lequel ils ont vécu meurt, ils vivent une sorte de deuil. Quand le maître d'un animal meurt, on voit ça chez les chiens en particulier, l'animal reste auprès de son maître. Il se produit quelque chose. Les animaux peuvent éprouver des émotions. Nous avions un chien à la maison. Un chat du voisinage venait souvent marcher de l'autre côté de notre clôture grillagée. Il faisait des allers-retours assez audacieux. Notre chien détestait les chats, et il ne les aimait vraiment pas. Un jour, il en attrapait un. Heureusement que j'étais là, pour sauver le pauvre petit animal. C'est difficile d'empêcher un berger allemand de tuer un chat. Sans mon intervention, il aurait réussi, d'autant plus qu'il s'agissait d'un tout petit chat, un chat tout jeune. Lorsqu'un chien ou un chat regarde un écran de télévision, ça arrive à l'occasion, est-ce qu'ils perçoivent le message diffusé, comme vous et moi nous percevons le message diffusé, comme nous pouvons faire? Sont-ils attristés par ce qui se passe à l'écran, ou sont-ils simplement fascinés par la succession des images ou par le simple mouvement des images? L'homme réagit différemment, à cause de l'esprit qui est en lui. Les humains comprennent beaucoup mieux que les animaux. Encore une fois, je ne dis pas que les animaux n'ont pas d'émotions, parce que je les ai observés, et ils en ont certaines. Mais ils se comportent différemment, ils subissent aussi d'autres influences extérieures. Notez comment le serpent séduit et change notre monde. J'aimerais lire un extrait de l'article du Dr. Roderick C. Meredith, intitulé « L'univers alternatif de Satan ». C'est paru dans notre revue « Le monde de demain » en 2016. C'est un sujet sur lequel il avait beaucoup réfléchi vers la fin de sa vie. Je me souviens qu'il en parlait souvent. Il voulait même écrire une brochure à ce sujet. Je cite « Très peu de gens comprennent la raison des bouleversements qui ont lieu dans notre société. Jamais depuis l'époque de Sodome et Gomorre, nos peuples n'avaient été aussi confus qu'ils le sont maintenant. » C'est particulièrement vrai de nos jours, à cause de la mauvaise utilisation de la technologie. En exerçant un contrôle quasi total sur les médias, Satan le diable est capable de manipuler les pensées, les comportements et les actions de milliards d'êtres humains, notamment la jeune génération. La jeune génération n'a pas idée à quel point le monde a changé. Écoutez, dans les écoles actuellement, Satan s'acharne vraiment sur la jeune génération. Dans les écoles présentement, Satan s'acharne vraiment sur nos enfants. Il s'attaque aux plus jeunes, aux plus petits. L'article que je viens d'écrire au sujet des drag queens qui racontent des histoires aux tout-petits montre que ce sont les très jeunes enfants qui sont ciblés. L'objectif est de les endoctriner. Tout cela a été planifié, je vais vous le montrer. C'est là une tendance générale. Je continue maintenant la citation de l'article de M. Meredith. Ceux d'entre nous qui avons un certain âge et qui avons souffert en apprenant ce qu'est la vie, nous devrions avoir appris à ne pas sauter dans le premier train venu, en nous laissant entraîner par les derniers changements sociologiques et psychologiques orchestrés par Satan le diable. Nous avons découvert au fil des années que ces idées ne fonctionnent pas, Lorsque de jeunes présentateurs télé et radio lisent un texte préparé disant que les droits civils des individus ne sont pas respectés, si des jeunes hommes pervertis décident qu'ils sont des femmes et qu'ils peuvent alors utiliser les toilettes et les vestiaires réservés aux femmes, nous sommes en colère, bien sûr, car nous savons et nous comprenons que ces idées sont fondamentalement erronées et mauvaises. Cela ne fonctionne pas et n'apportera rien de positif. Fin de citation. C'est intéressant parce que cela a été écrit il y a 3 ans. Et même maintenant, les sources d'information conservatrices tentent de mettre cela de côté en disant « Voilà, la bataille a eu lieu, c'est fini. Et nous ne voulons plus en parler. Nous sommes tous en faveur maintenant. » C'est incroyable. C'est incroyable. Et il ne s'agit pas seulement des jeunes. En fait, les jeunes pourraient être les plus contrariés parce que c'est à leur école que ces choses peuvent se produire. Malgré tout, notre société accepte maintenant ces choses de façon de plus en plus généralisée. À vrai dire, certains ne les acceptent pas, mais trop peu de gens. Poursuivons la lecture. Alors que des milliards de jeunes se retrouvent sous l'influence de Satan dans ces situations actuelles, il est clair que Satan contrôle notre société plus que jamais auparavant en utilisant la nature intrusive des médias. Satan peut littéralement bombarder les jeunes avec ses fausses idées au moyen de la télévision, de la radio, des journaux, d'Internet et des autres supports que beaucoup de gens consultent, même plusieurs fois par jour. Le Dieu Tout-Puissant savait que cela aurait lieu. C'est pourquoi il a averti les chrétiens qui, eux aussi, marchaient autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. La Bible montre clairement que Satan le diable fut un puissant chérubin qui se rebella contre le Créateur et à qui Dieu permet actuellement d'être le Dieu de ce siècle qui a aveuglé l'intelligence des incrédules, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. C'est ce qui est mentionné dans 2 Corinthiens 4, versets 3 et 4. Voyons maintenant un aspect de l'infopublicité, cette infopublicité du serpent. Il y a près de 30 ans, les homosexuels ont commencé à sortir du placard, dans des comédies télévisées. Nous n'avions jamais vu une telle chose auparavant. Nous savions que ça existait, je me rappelle Liberace et quelques autres individus, mais les gens ne sortaient pas du placard en déclarant ouvertement leur orientation sexuelle. Puis, ils ont diffusé la sitcom intitulée « Vivre à trois ». Je n'étais pas spectateur de cela, mais je savais de quoi il s'agissait. On y voyait un gars et deux filles qui vivaient dans le même appartement, ou l'inverse, une fille et deux garçons, je ne me rappelle pas. Pourquoi faire une chose pareille? Pour faire accepter un comportement déviant. Pour faire accepter un comportement déviant. Je vais vous le montrer. Ensuite, Marie et femme ont été appelés des partenaires, ce qui permettait de désigner quelqu'un qui n'était pas la femme ou le mari de l'autre. Robert Doyle, après avoir tenté, sans y parvenir, d'être élu à la présidence américaine, a commencé à faire de la publicité pour le Viagra, en utilisant l'expression « des millions d'hommes et leurs partenaires ». Voyez-vous, on élargissait le concept. Quel que soit votre partenaire. Vous savez, la gauche est habile. Je dis la gauche, mais c'est plutôt le serpent qui les inspire. Il est très adroit. Il manie habilement les mots, le langage pour changer notre façon de penser. Je me souviens d'avoir vu à la télévision une publicité de bière où deux femmes s'embrassaient, plutôt repoussant. Je n'ai jamais bu de cette bière-là et je n'en boirai pas non plus. Je ne savais pas non plus qui était Katy Perry avant de la voir à la télévision canadienne et de l'entendre chanter « I Kissed a Girl » où elle affirme avoir beaucoup aimé embrasser une autre femme. Il n'y a pas toujours de public sur place dans ces émissions, mais dans cette émission-là, cette fois-là, il y avait de très jeunes filles autour, probablement des préadolescentes, qui dansaient et chantaient autour d'elle. Et elle connaissait très bien toutes les paroles de la chanson. Le but était de montrer la vedette avec plusieurs jeunes, alors qu'on ne fait pas cela dans les autres émissions. Voyez-vous, il y avait un but précis. Même HGTV est dans le coup avec des couples non traditionnels et divers produits à vendre. Comme je le dis à ma femme, HGTV est une infopublicité, c'est tout. Tout y est fait pour vendre quelque chose ou passer des idées. Elle aime HGTV et je pense que beaucoup de gens l'aiment aussi. Il y a sans doute de bonnes raisons de regarder cette chaîne, mais il faut savoir ce que c'est. Il faut vraiment le comprendre. Vous devez savoir les effets qu'elle a et qu'elle peut avoir sur vous. Est-ce qu'elle vous donne envie d'apporter des changements à votre maison? Voulez-vous soudainement acquérir des choses? Parce que vous les avez vues annoncer? Vous savez, j'ai été bombardé jour après jour. En passant devant la télé, je voyais une boîte en arrière-plan avec le nom Wayfair. Je n'en avais jamais entendu parler avant. Je me disais, ils font de la publicité. Vous découvrirez bien vite que Wayfair est une entreprise en ligne. Je ne sais pas exactement quoi, mais ils ont des choses à vendre. Tout est info-publicité. Quand vous voyez une voiture Ford dans une course-poursuite, c'est de la publicité. La publicité, elle est partout. Je sais que plusieurs parmi vous connaissent le livre de David Copelian au sujet de la commercialisation du mal. Combien d'entre vous avez lu ce livre-là? On appelle en anglais « The Marketing of Evil ». Je pense que c'était peut-être environ 8% d'entre vous. J'espère que vous avez d'abord lu notre littérature, bien sûr, mais si vous aimez lire, ce livre donne beaucoup d'informations. Laissez-moi vous en lire un peu, à la page 89. Ça donne à réfléchir beaucoup. On y cite Robert McChesney, qui est professeur en communication à l'Université de l'Illinois. Il déclare ceci. Tout sur MTV. Je ne sais pas si cela existe encore, mais tous les jeunes s'y intéressaient à ce moment-là. Tout sur MTV est info-publicité. Voilà ce qu'est MTV. On y voit la description détaillée d'un produit particulier qui est à vendre, bien sûr, puis une compagnie de disques présente une vidéo pour vendre de la musique. À d'autres moments, on présente un étalage de vêtements à la mode avec les accessoires assortis pour créer une tendance vestimentaire. On y trouve aussi des bandes-annonces de films avant leur sortie. Alors, c'est de l'info-publicité. Tout est fait pour vendre, pour passer des messages. Même dans les émissions d'information, si quelqu'un a écrit un livre, par exemple, il est interviewé. Il donne interview sur interview à différentes stations, sur différents réseaux. Ce sont des publicités. Tout est publicité là-dessus. Sur MTV. Il ajoute, tout est info-publicité, il n'y a rien qui ne soit non commercial sur MTV. Il donne ensuite l'exemple de la boisson pétillante Sprite, dont la société ne se portait pas très bien à un certain moment donné. Je cite ici ce que le livre dit. Ce qui était autrefois une société de boissons gazeuses de second rang, en difficulté, a réussi un brillant coup de mise en marché en souscrivant à des événements musicaux hip-hop majeurs, et en se positionnant comme la boisson gazeuse la plus cool pour le vaste marché de la génération MTV. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont donné $50 à chaque jeune pour être présent à l'événement, avec toutes ces vedettes du hip-hop. Puis ils ont commencé à faire de la publicité, en présentant leurs produits comme la chose la plus cool, celle que les jeunes vont désirer. Et je continue la citation. Et alors, me direz-vous, qu'est-ce qu'il y a de mal à cela? MTV, les rappeurs, les fabricants de vêtements et autres ne donnent-ils pas aux jeunes ce qu'ils désirent? C'est ce qu'ils disent, mais ce n'est pas ce qu'ils font. En réalité, les sociétés, sous le couvert de jeunes en quête d'identité et d'appartenance, créent de nouvelles campagnes de mise en marché de plus en plus ignobles et choquantes, dans le seul but de profiter financièrement des jeunes Américains. Tout est monté. C'est de l'info-publicité. Ils engagent même de faux clients. des gens qui font semblant d'être des clients enthousiastes pour interagir avec les jeunes dans les groupes de discussion sur Internet. Ça va loin. Et ils embauchent des influenceurs pour faire la promotion d'un groupe ou d'un produit afin de susciter l'intérêt. Ils font appel à toute la machinerie des études de marché moderne et à la psychologie des consommateurs pour étudier cette mine d'or qui est le marché, afin d'anticiper la prochaine incarnation toujours plus bizarre et plus choquante de ce qui est cool. Je sais qu'on en a déjà parlé, mais vous devez comprendre qu'il y a des gens qui essaient de vous vendre des marchandises et des idées pour s'enrichir à vos dépens. Qui sont-ils? Ce sont des gens que le serpent pousse à agir selon son propre agenda afin de générer des profits et d'abaisser les standards de la société. Ce n'est pas accidentel. Ce n'est pas un hasard. Ni au niveau humain et certainement pas au niveau spirituel. En fait, c'est une tentative évidente d'unifier, de désensibiliser et de changer une population naïve, de convertir une population naïve à une autre façon de penser et d'agir. J'aimerais lire ici un extrait d'un livre qui est un peu difficile à obtenir de nos jours. Il a pour titre « After the Ball », c'est-à-dire « Après le bal ». Ce livre visait à montrer comment l'Amérique allait surmonter sa peur et sa haine des homosexuels dans les années 90. Les recherches sur ce sujet ont été effectuées à la fin des années 80. Et le livre a été publié vers 1989. Souvenez-vous, j'ai dit plus tôt que nous avons vu des homosexuels sortir du placard dans chaque sitcom. Ce n'était pas une coïncidence. Tout avait été pensé, programmé. C'était une campagne bien planifiée. Le livre avait pour but de faire accepter l'homosexualité à la population américaine, les auteurs étant eux-mêmes des homosexuels. Il a été écrit par des gens très éduqués, messieurs Madsen et Kirk. Ils ont déclaré ceci. « Lorsque vous êtes très différent et que les gens vous détestent pour cela, voyez ce qu'il faut faire. » Il explique comment on doit arriver à vendre l'homosexualité aux Américains. « Mettez d'abord un pied dans la porte, en montrant que vous avez avec eux beaucoup de similitudes. Ensuite, quand l'une de vos petites différences est acceptée, vous pouvez commencer à dévoiler vos autres différences ou particularités, une par une. Il faut faire accepter les petites différences d'abord, avant d'imposer les plus importantes. Comme le dit le proverbe, si vous laissez entrer le museau du chameau sous votre tente, tout son corps suivra bientôt. » Dans leur livre, il est aussi question d'une campagne de propagande, un jeu de propagande. Je m'explique. Ils mentionnent trois étapes nécessaires. Ils utilisent bien sûr plusieurs tactiques différentes, mais trois d'entre elles sont mentionnées dans ce chapitre particulier. La première est la désensibilisation. Je cite, « En règle générale, sur le plan physio-psychologique, les nouveautés cessent d'être des nouveautés si elles persistent assez longtemps. » Elles cessent également d'activer les mécanismes d'alerte si elles sont répétées assez longtemps. En d'autres termes, si vous voyez quelque chose pendant un certain temps, pendant assez longtemps, vous vous y habituez, comme par exemple le langage grossier dans les films. Vous finissez par le prendre pour acquis. Vous savez qu'il ne disparaîtra pas et que les livres aussi en contiennent beaucoup. Qu'est-ce qui arrive? On s'y habitue. Au début, notre mécanisme d'alerte se met en marche en nous avertissant. Il y a quelque chose qui ne va pas, on n'accepte pas. Mais après un certain temps, ce mécanisme cesse de s'activer et les choses deviennent comme naturelles. Elles s'imposent d'elles-mêmes et elles deviennent comme plus acceptables sans qu'on s'en rende compte. Toutefois, si les gays, je continue la citation, « Toutefois, si les gays peuvent vivre aux côtés des hétérosexuels, notez qu'ils utilisent le mot « gay ». On explique même dans le livre qu'ils ont choisi ce mot pour mieux faire accepter l'homosexualité à la population. Ce n'est qu'un terme parmi plusieurs autres spécialement choisis. Ils mentionnent aussi, à l'occasion, bien sûr, le mot « homosexualité ». Je cite, « Il est évident qu'ils tentent d'offenser le moins possible sachant qu'avec le temps, malgré l'irritation des hétérosexuels au début, le mécanisme d'alerte des gens diminuera pour des raisons purement physiologiques. Fin de la citation. Voyez-vous? C'est le phénomène de l'habituation. Nous allons nous y habituer. Je continue la citation. De notre campagne, on peut dégager les principes suivants. Désensibiliser les hétérosexuels aux gays et à l'homosexualité. Les inonder ensuite d'un flot continu de publicités liées aux gays en essayant de les offenser le moins possible. Quand vous écoutez votre sitcom préféré et que quelqu'un sort du placard, cessez-vous d'écouter l'émission ou si vous vous habituez tranquillement à cela? Si les hétéros ne peuvent pas fermer la douche, ils pourraient finalement s'habituer à être mouillés. Allez, s'il vous plaît, dans 1 Timothée, le chapitre 4. Ça nous apprend quelque chose de particulier ici, qui a un rapport direct avec ce dont je vous parle. 1 Timothée, chapitre 4, verset 2. On y trouve une réflexion sur les doctrines de démons, qui endorment la conscience des gens, qui dessèchent la conscience. L'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure de leur propre conscience. La conscience est flétrie, endurcie, quand elle ne perçoit plus correctement. Elle est en quelque sorte desséchée, endormie et endurcie. C'est ce qui se produit. Hébreux 3, verset 13. Hébreux 3, verset 13, rapporte ceci. Mais exhortez-vous les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. C'est ce dont on parle. Plus nous tolérons le péché et nous y restons exposés, plus nous nous endurcissons, nous en venons à ne plus le considérer comme mauvais, ou du moins plus aussi mauvais qu'auparavant. Continuons. Après la désensibilisation, l'étape suivante est appelée le brouillage. Je cite, « Tous les gens normaux se sentent à part lorsqu'ils perçoivent les choses différemment des autres, qu'ils ne pensent pas ou n'agissent pas comme un membre du groupe ou de la meute. Nous voulons tous suivre la foule, n'est-ce pas? Et cela nous porte à dissimuler nos sentiments quand nous voyons que nous ne faisons pas partie du groupe. Ces gens le savent très bien. » Ainsi, la publicité de propagande dépeint souvent ceux qui résistent au courant ou qui ne sont pas d'accord comme des bigots, homophobes et haineux. Bien qu'ils aient préféré traiter de haineux ceux qui ne les appuient pas, c'est le terme homophobe qui est imposé. Quant au mot bigot, ils l'utilisent pour nous désigner, vous et moi. Ils le répètent encore et encore. C'est ce qui se passe. Observez ce qui se passe. Je continue la citation. Ainsi, la publicité de propagande dépeint souvent ceux qui résistent au courant comme des bigots homophobes et haineux, comme des forts en gueule, grossiers. Je dois m'arrêter ici. Car ils ajoutent plusieurs autres qualificatifs qui n'ont rien de chrétien. En d'autres termes, ils utilisent ces gros mots pour dénoncer des comportements incorrects. Cela leur permet de se plaindre, d'être critiqués, détestés, rejetés. Cela leur permet aussi d'affirmer que les homosexuels vivent une souffrance horrible qui résulte directement de la haine des autres. Souffrance dont la plupart des bigots auraient honte d'être la cause. Voyez-vous? C'est la forme de pensée qu'on répand. Notez qu'ils utilisent le terme chrétien, car ils savent bien qui sont leurs ennemis. Ils lient le fanatisme homophobe à toutes sortes d'attributs qu'un fanatique aurait honte de posséder et aux conséquences sociales qu'il trouverait désagréables et effrayantes. La troisième étape de leur propagande, c'est la conversion, le changement. Il ne suffit pas de rendre les fanatiques anti-gays confus ou même indifférents à notre égard. Nous serons plus en sécurité à long terme si nous pouvons réellement les rendre comme nous. La conversion vise justement à cela. Il s'agit de convertir les émotions, l'esprit et la volonté des Américains moyens par une attaque psychologique planifiée sous la forme d'une propagande administrée à la nation par les médias. Le fait est que ces choses n'arrivent pas par hasard. Il y a quelqu'un qui tente de manipuler votre esprit tous les jours, à longueur de journée. Exemple, si la désensibilisation laisse une montre marquer le temps et que le brouillage projette du sable dans son engrenage, la conversion, elle, en affecte les ressorts pour inverser le sens de rotation des aiguilles de cette montre. De même, le fanatique, dans les revues, sur des panneaux d'affichage et à la télévision, est constamment exposé à des images, étiquettes, selon lesquelles des gays, reconnus comme tels, ne ressemblent pas à l'image généralement projetée par les homosexuels, mais plutôt au fanatique lui-même, ou encore à quelqu'un de bien, le genre de personne qu'il aime et qu'il admire. Cette image doit, par nécessité, être soigneusement adaptée pour être exempte de tous les éléments d'apparence, de tenue vestimentaire ou autre reliés aux gays. C'est leur mot. Le fait que ces publicités soient mensongères n'a aucune importance à leurs yeux, car ils prétendent s'en servir pour produire quelque chose de bien sur le plan éthique, selon leur vue. J'ai autre chose à mentionner, mais souvenez-vous de ceci. Le fait que ces publicités soient mensongères n'a aucune importance à leurs yeux, car ils prétendent s'en servir pour produire quelque chose de bien selon eux. Les annonces peuvent utiliser des expressions comme « les amateurs de bière Beauregard-Smith », « les vieux de la vieille », « les piliers de la communauté, 100% américains et gays comme une mangouste ». Voyez un exemple de promotion dans ce sens. Je vais passer à autre chose. Ça donne une petite idée de ce qui se passe. Vous connaissez par exemple le film « Le secret de Brokeback Mountain » Je ne l'ai jamais vu. En fait, j'ai lu une critique à ce sujet. Et je dois dire que c'était bien plus choquant que je l'avais d'abord imaginé. Je savais que c'était à propos de deux cow-boys gays. On y voit un cow-boy, un bon vieux de la vieille. L'histoire sur laquelle le film est basé a été écrite en 1997, quelques années seulement après la sortie du film « L'après-balle ». L'histoire est abominable, mais elle est tout de même inscrite au registre national des films de la Bibliothèque du Congrès américain comme étant culturellement, historiquement ou esthétiquement significative, autrement dit, quelque chose qui mérite d'être préservé. Le chapitre suivant de ce livre contient quelques commentaires. Il est dit ceci. Premièrement, la propagande repose davantage sur la manipulation émotionnelle que sur la logique. Ça repose davantage sur la manipulation émotionnelle que sur la logique. Puisque son but est, en fait, d'amener un changement dans les sentiments du public. La deuxième caractéristique sinistre de la propagande est son recours fréquent aux mensonges purs et simples, une tactique dont nous n'avons ni besoin ni envie. Oh, vraiment? Nous venons de lire dans le chapitre précédent, à quelques pages près, que le recours au mensonge n'a pas d'importance puisqu'il est utilisé selon leur fin, à bon escient. En février 1988, cependant, une conférence de guerre réunissant 175 militants homosexuels de premier plan, représentant des organismes de tout le pays, a eu lieu à Warrenton, en Virginie, pour établir un programme en 4 points. En faveur du mouvement homosexuel. La conférence a donné priorité à une campagne médiatique nationale pour promouvoir une image positive des gays et lesbiennes. Et sa déclaration finale conclut de cette façon. Nous devons tenir compte des médias dans chaque projet que nous entreprenons. Nous devons aussi saisir toutes les occasions possibles pour passer des messages d'intérêt public et des annonces payantes et entretenir des liens avec les journalistes et les rédacteurs en chef des journaux, de la radio et de la télévision. Pour faciliter cela, nous avons besoin d'ateliers nationaux sur les médias pour former nos dirigeants. Nos efforts médiatiques sont essentiels pour être pleinement acceptés par la société américaine. Vous savez, il n'y a pas que le mouvement LGBT, il y en a d'autres qui lui ressemblent. Plusieurs personnes font campagne pour obtenir ce qu'ils désirent. Je sais que le concept, par exemple, de cannabis à usage médical est un sujet controversé pour certains. Écoutez, a-t-il ou non une réelle utilité médicale? Je ne le sais pas. Bien que les autorités disent que non, cela n'a pas encore été prouvé. Une campagne est menée par ceux qui veulent en faire un usage récréatif. Ce sont eux qui en font la promotion. Et les gens ne le comprennent pas. Ils ne comprennent tout simplement pas. Il y a pourtant plusieurs preuves. L'autre jour, j'ai entendu une publicité pour l'huile de CBD. Le CBD n'est pas de la marijuana. Il provient de la plante de cannabis. Et il est non hallucinogène. Dans la publicité, ça dit « Il guérit tous les maux. Avez-vous des problèmes de santé? Essayez l'huile de CBD. » C'est de l'huile de serpent. En réalité, c'est ça. Pourrait-elle être utile à quelque chose? C'est très possible. Rien n'est encore prouvé. Lorsqu'un remède est présenté comme guérissant tout et n'importe quoi, nous devrions être un peu sceptiques et ne pas nous précipiter avant d'avoir fait quelques recherches. Le serpent fait très bien son infopublicité et il est en train de changer notre société d'une manière que nous ne pouvons pas imaginer. Quelles autres infopublicités diffusent-ils? Des styles de coiffure, des robes immodestes, des piercings et des tatouages, le vapotage, le véganisme, des attributs de haine, de racisme et de partisanerie, et une implication dans la politique de ce monde? Ils voudraient que nous portions tous des armes à feu, pour les mauvaises raisons. Et ce n'est que le début de la liste. Je pourrais ajouter plusieurs autres éléments. Voici une question importante pour chacun de nous. Jouez-vous un rôle dans la publicité du serpent? Y participez-vous? Faisons-nous partie de sa distribution? Avons-nous un rôle principal, un second rôle, ou celui d'un figurant sur le plateau? Pensez-y en ces termes-là. Jouons-nous un rôle de figurant par nos propos, par nos paroles, par ce que nous écrivons sur les médias sociaux ou disons sur les médias sociaux? En nous promenant, par exemple, dans une tenue immodeste? Peut-être sommes-nous en arrière-plan, dans le public, mais nous sommes là, dans le publi-reportage. Nous faisons partie de l'info-publicité au sujet du perçage corporel, des tatouages et du reste. Je voudrais dire quelque chose à propos des tatouages, car ils sont très populaires de nos jours. Et on les voit de plus en plus souvent à l'église. Vous ne pouvez pas changer ce que vous avez fait avant d'entrer dans l'église, bien sûr. Vous auriez pu prendre une décision différente, mais vous avez pris cette décision-là. Avant d'entrer dans une relation avec Dieu, nous avons tous fait des choses vraiment stupides, n'est-ce pas? Et même après notre entrée dans l'église, nous sommes tous coupables de plusieurs péchés. Donc, il ne s'agit pas ici de critiquer ce que les gens faisaient avant d'entrer dans l'église. Mais au cours de la fête, je dois vous dire quelque chose. J'ai vu certains exhiber leurs tatouages. Qu'est-ce que j'entends par exhiber leurs tatouages? Eh bien, si vous avez le bras entier tatoué, vous devriez vous dire peut-être que je devrais porter des manches longues plutôt que de faire partie de la publicité du serpent de cette façon, parce que tout le monde va me voir. Si votre tatouage est à l'arrière de l'épaule et que vous avez une robe qui le montre, les autres vont le voir et s'y habituer. Ils n'aimeront peut-être pas ça au point de départ, mais ils vont s'habituer, pour ainsi dire, tranquillement. Vous savez, il y a des choses que vous ne pouvez pas cacher. Les personnes qui ont des tatouages sur les mains, par exemple, ne peuvent pas vraiment les cacher. Je suppose qu'ils pourraient porter des gants tout le temps. Nous ne demandons pas aux gens de faire cela. Mais il me semble que si vous avez lu dans Lévitique 19, le verset qui dit Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de figure sur vous. » Certains pourraient dire, « Peut-être que je ne veux pas vraiment montrer cela si je peux l'éviter. C'est peut-être mieux de ne pas me montrer. » Au contraire, il semble parfois que certaines personnes n'aient aucune honte, aucun désir de le dissimuler. Encore une fois, si ce n'est pas possible, ça ne l'est pas. Si vous avez sur la main, la joue, l'oreille ou le cou un tatouage, vous ne pouvez pas le cacher. Personne ne s'attend à ce que vous le fassiez. Nous aimons les personnes, même qu'ils ont fait des erreurs. Nous aimons ces gens qui viennent à l'Église. Proverbe 10, verset 12, donne un principe important. Ce principe est rappelé ensuite dans 1 Pierre 4, verset 8, mais je vous cite ici Proverbe 10 et le verset 12. Ça dit, la haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. L'amour couvre toutes les fautes. Vous voyez, nous pouvons accepter les gens qui ont fait des erreurs parce que nous nous soucions d'eux, parce que nous les aimons. L'amour couvre tous les péchés. La haine ne fait qu'attiser les conflits. Nous ne voulons pas dire à personne, pourquoi avez-vous fait ceci, pourquoi avez-vous fait cela. Mais il reste que si nous avons fait quelque chose que nous ne ferions pas aujourd'hui, ne serait-il pas logique de ne pas le montrer au monde entier, de ne pas en faire étalage le plus possible? C'est un peu comme si certains étaient fiers de leurs œuvres d'art corporel, même au sein de l'Église. Et c'est ça qu'on doit mettre en question. Je sais aussi qu'il y a parmi nous des gens qui ne sont pas des membres de l'Église, peut-être qu'ils accompagnent leurs conjoints. Je ne sais pas exactement qui sont ces gens, mais j'ai remarqué cela à la fête des tabernacles et à d'autres endroits. Je le vois de temps en temps. Alors, que devons-nous faire? Paul a donné des conseils précieux à l'Église d'Éphèse. Allez dans Éphésiens, chapitre 6. Frère, je mentionne ces choses parce que la situation ne va pas s'améliorer. Au contraire, elle ne fera qu'empirer. Et nous risquons d'être démolis par l'infopublicité qui fait en sorte que ce qui nous entoure déraille et nous rejoint par son influence. Nous risquons, si nous ne sommes pas prudents, d'être désensibilisés, de devenir embrouillés et de nous laisser attirer, comme si c'était pas mal. Certains vont même se convertir à cela, au point de devenir porteurs de cette infopublicité. Éphésiens 6, verset 11. « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Le diable est un personnage rusé. Il est intelligent. Il est puissant. Je continue la citation. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et nous sommes dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Nous devons savoir ce que disent les Écritures. Nous devons vivre selon elles, les étudier chaque jour. Revêtez la cuirasse de la justice. En d'autres termes, vivez selon la vérité. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de la paix. Votre but étant la bonne nouvelle, de vivre selon l'Évangile, plutôt que d'essayer de vous adapter au monde. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Mes frères, ces paroles sont puissantes et elles ne doivent pas tomber dans l'oreille d'un sourd. Ève a succombé aux convoitises de la chair, ce qui semblait bon, qui était attrayant, à la convoitise des yeux, il faut que je l'aie, et à l'orgueil de la vie. Certains peuvent penser comme ça, je sais mieux que mes parents, je sais mieux que l'Église, je sais mieux que Dieu. Quand les adolescents entendent la musique, voient les casquettes portées à l'envers, et remarquent que toutes leurs idoles ont des tatouages, il y a cette petite voix intérieure qui leur dit, sans qu'ils s'en rendent vraiment compte, il faut que j'aie ça, j'en ai besoin, je le veux. En tant qu'adultes, nous ne sommes pas différents non plus. Ce sont plus que des mots. Ils ont une signification importante. La publicité fonctionne. Ne tombez pas dans le piège. Quelle est l'ambiance actuelle autour de nous? De quoi le monde fait-il la promotion? Quelle philosophie, quel changement culturel ou quelle idée met-il de l'avant? Le monde s'améliore-t-il vraiment? Je ne pense pas. Selon les Écritures, le monde ne s'améliore pas, au contraire. Quelle tendance sociale voyez-vous aujourd'hui qui n'existait pas il y a 20 ou 30 ans, si vous avez assez d'âge pour le savoir? Si vous êtes plus jeune, on ne peut pas vous le reprocher, bien sûr. Ce n'est peut-être pas une coïncidence si dans la même lettre, celle où Paul nous a conseillé de revêtir une armure spirituelle, et nous a également dit dans Éphésiens 5, verset 15, « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. »